Bienvenue sur Inter, bonjour à tous. Nous sommes le mardi 14 septembre. Bonjour Anaïs Feuga.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous.
À la une de l'actualité, le président de la République qui clôture ce midi, le Beauvau de la sécurité à l'issue de 7 mois de consultation avec les forces de l'ordre. L'Élysée promet des annonces substantielles. Nous serons dans ce journal avec des policiers de Marseille. Les autres titres, Anaïs.
Mobilisation de la CGT Santé aujourd'hui partout en France contre l'obligation vaccinale dans les hôpitaux. Qui risque de désorganiser les services, exemple à Vichy. À Washington, le secrétaire d'État américain accusé de trahison par les élus républicains du Congrès après le retrait chaotique d'Afghanistan. Et puis, 1000e satellite lancé par Arianespace ce soir. L'Europe toujours compétitive.
Et nos invités ce matin à 7h50, Léa.
Il a fait une entrée fracassante en littérature il y a 7 ans avec En finir avec Eddie Bellegueule. Il revient une fois encore sur son enfance et dit sa honte d'avoir renié ce qu'il était pour y arriver dans la vie, pour devenir un bourgeois. La culpabilité d'un transfuge de classe. Un texte très fort. Édouard Louis sera avec moi à 7h50.
A tout à l'heure, Léa. On se retrouvera à 8h20 pour le grand entretien de la matinale avec le directeur général de l'IFOP, Frédéric Dabi. Il publie La Fracture, comment la jeunesse d'aujourd'hui fait sécession. C'est aux éditions Les Arènes, en librairie après-demain. Vos questions dès maintenant pour le coup au 01 45 24 7000.
France Inter. Novembre dernier, le producteur de musique Michel Zecler était passé à tabac à Paris par des policiers. Emmanuel Macron reconnaissait l'existence de contrôles aux faciès et de violences. Le divorce semblait consommé avec la police. 7 mois de concertation et 8 tables rondes plus tard. Voici la conclusion aujourd'hui du Beauvau de la sécurité. Le président de la République devrait venir y faire des annonces. On va y venir. Sur le terrain, on attend des engagements et pas seulement des promesses. À Marseille, où un jeune homme de 27 ans vient encore d'être abattu hier soir dans le quartier de la Bricarde, Romane Porcon a recueilli le témoignage de policiers désabusés.
Quand on demande à Bruno, policier depuis plus de 20 ans à Marseille, ce qu'il attend du Beauvau de la sécurité, sa réponse est claire.
Rien. Rien. C'est même pas un Beauvau qu'il faut, c'est une réforme complète de toute l'institution police.
Alors justement, parmi les objectifs du gouvernement, il faut renouer le lien entre population et policiers dans certains quartiers. Un doux rêve pour Bruno.
Il y a une frange de notre population qui est en rupture complète avec l'autorité de l'État, donc avec sa police. Tout le monde dans les quartiers nord ne fait pas bien sûr partie de cet archétype-là, et encore heureux. Ceux qui sont capables d'aller dans les quartiers avec des AK-47, des Kalachnikov, ils vous tirent quand même des trajets de 7,62. Est-ce que vous pensez vraiment qu'on peut renouer un dialogue avec ce genre de, on va dire, combattant? Mais non, il n'y a pas de dialogue possible. Il y a une guerre à déclarer et une guerre à gagner.
Et pour la gagner, les policiers ont besoin aussi de réponse pénale pour Rudy Mana, secrétaire du syndicat Alliance dans les Bouches-du-Rhône.
Une réponse pénale quand nous présentons des individus pour trafic de stupéfiants aux magistrats. Alors, il manque des magistrats, ok, mais c'est à lui de dire qu'il faut mettre davantage de magistrats. Il manque des places de prison, mais c'est à lui de trouver la solution pour avoir davantage de places de prison. Il faut que ces mecs-là aient une réponse pénale.
Cette réponse pénale fait donc partie des 8 chantiers du Beauvau de la sécurité. Marseille, Romaine Porcon, France Inter.
Un chantier conclu donc ce midi par Emmanuel Macron. Discours à l'École nationale de police de Roubaix. Ébauche d'une nouvelle loi qui ne pourra pas être votée avant la fin du quinquennat. Voilà en tout cas de quoi alimenter un programme pour la bataille présidentielle de 2022. Ce qui fait de ce discours un moment très politique, Simon Le Baron.
Il y a le choix du lieu, évidemment pas anodin. Roubaix, on est à quelques kilomètres de Tourcoing, la ville de Gérald Darmanin, ce ministre de l'Intérieur choisi pour séduire les électeurs de droite. On est aussi sur les terres de Xavier Bertrand, il sera là tout à l'heure, le président de la région et prétendant à l'Élysée, autoproclamé candidat de la sécurité, comme si Emmanuel Macron cherchait à asphyxier la concurrence. C'est d'ailleurs la stratégie de l'Élysée en cette rentrée, surjouer l'image du chef de l'État en action face aux oppositions qui ne ferait que commenter. Voilà pourquoi le président va insister sur son bilan, les chiffres de la délinquance en baisse, les 10 000 créations de postes et faire des annonces, les moyens pour la formation ou ce contrôle indépendant, encore flou, de l'action des forces de l'ordre. Et puis, il y a la méthode dessinée par Emmanuel Macron. La nation investit massivement, mais en contrepartie, il doit y avoir des changements radicaux, résume un conseiller. Méthode déjà exposée à Marseille, le président sort le carnet de chèques d'une main main et serre la vis de l'autre.
Un contrôle indépendant de l'action des forces de l'ordre, vous en parliez Simon, c'est ce que demande aussi Amnesty International qui, dans un rapport au vitriol qui tombe bien à propos, dénonce la façon dont les gendarmes sont intervenus pour mettre fin à la free party illégale de Redon en juin dernier. 7 heures non-stop de grenades lacrymogènes et assourdissantes lancées sur les participants, une main arrachée sans qu'un plan de secours n'ait été prévu. Pour l'ONG, cet usage de la force en premier recours, sans médiation, est emblématique des dérives du maintien de l'ordre en France.
Il est 7h05, un Beauvau de la sécurité donc, et un ministre de l'Intérieur qu'on imagine soulagé.
Gérald Darmanin qui voit les accusations de viol s'éloigner. La juge d'instruction chargée de l'enquête a mis fin aux investigations sans le mettre en examen. Le parquet de Paris doit maintenant prendre ses réquisitions, mais on s'oriente vers un non-lieu. La plaignante accusée, l'alors jeune cadre de l'UMP en 2009, de lui avoir imposé une relation sexuelle en échange d'une intervention de sa part en sa faveur. La CGT Santé remet le couvert ce matin contre l'obligation vaccinale dans les établissements de santé. Les sanctions qui s'appliqueront dès demain, des rassemblements prévus partout en France. Le syndicat alerte sur le manque de bras dans les hôpitaux aggravés par cette obligation. Même si, comme à l'hôpital de Vichy dans l'Allier, 96% des agents sont vaccinés. Dominique Manon.
70 agents non vaccinés sur 1800, c'est très minoritaire, mais ça peut suffire à désorganiser un service, d'autant que la situation est déjà tendue. Pascal Devos est secrétaire général de la CGT à l'hôpital de Vichy.
Les difficultés datent bien avant la crise de la Covid, font qu'on a aujourd'hui des effectifs qui sont vraiment pratiquement souvent au minimum du minimum. Et vous imaginez bien que demain, si vous avez une infirmière qui ne se présente pas, ou est suspendu à partir du 15, ça va provoquer des difficultés puisqu'on ne remplace pas une infirmière comme ça.
Les personnels qui n'auront pas reçu au moins une dose, qu'ils soient soignants, agents administratifs ou d'entretien, verront leur salaire suspendu.
J'espère toujours que pour certains agents, ils arriveront à se vacciner avant d'arriver à cette suspension de salaire qui est quand même désastreuse. J'ai le cas en tête d'un ASH qui n'est pas vacciné, sa femme ne travaille pas. Je me dis, s'il y a une suspension de salaire, ça va être très compliqué avec des enfants. Je pense aussi que certains agents qui l'établissement, c'est aussi la goutte d'eau des conditions de travail qui se sont quand même fortement dégradées ces dernières années.
L'élu CGT fera la tournée des services demain avec un collègue pour faire le point sur la situation générale dans l'établissement.
Dans les EHPAD, 90% des personnels sont vaccinés contre le Covid-19. Selon la ministre déléguée à l'autonomie, il n'était que 60% avant le 12 juillet. Et on est repassé sous la barre des 10 000 malades du Covid-19 pour la première fois depuis le 15 août. La situation sanitaire s'améliore donc avec même à Rennes, le retour des concours d'animaux au Salon international de l'élevage qui s'ouvre aujourd'hui. Grand rendez-vous de la profession, enfin en présentiel. Plus d'un millier d'exposants attendus sur la question du bien-être animal, sur la question aussi du coût des matières premières. Autre préoccupation des éleveurs, le prix des aliments pour animaux, alors que les prix de vente, eux, ne bougent pas. Manuel Ruffez.
Le voilà donc, ce fameux aliment qui s'écoule sous nos yeux à base de céréales, blé, maïs, orge et ici de colza, tournesol ou soja non OGM. Il va faire le régal dans quelques minutes de ces cochons-là prêts pour l'abattoir. Nous sommes à Mignac sous Becherel, au nord de Rennes, dans l'élevage de Jean-Marc et Sylvie Roudot.
On s'attend à un hiver difficile où le prix de l'aliment va encore monter. On ne sait dans quelle proportion et avec un coût du porc qui va baisser.
Car c'est bien simple, avec un aliment qui a augmenté de 50 euros la tonne en 2 ans, ils ont aujourd'hui un coût de production d'1,45 € le kilo de porc, qu'il aurait pourtant acheté 1,35 €. Ils y sont de leur poche.
Si l'aliment prend 30 euros tonne d'augmentation, ça a un impact de 10 euros par porc. C'est un ratio de 1:3, et ça c'est un chiffre qui est imparable.
Pourtant, il y a eu les états généraux de l'alimentation et la loi Egalim qui auraient dû redonner du revenu aux agriculteurs en s'alignant sur leurs coûts de production.
Pour l'instant, elles n'ont rien fait, elles n'ont rien donné, et rien n'est mis en place pour nous aider à pallier à ce coût des matières premières qui arrivent sur nos exploitations.
Sylvie et Jean-Marc Roudot et leurs 3 salariés s'attendent à vivre des mois difficiles, pris en ciseaux entre le coût de l'aliment qui flambe et celui du cochon qui baisse.
Et le space, ça, c'est jusqu'à vendredi à Rennes, dernier jour par écran interposé.
Il est 7h09, la France va contribuer à hauteur de 100 millions d'euros, Anaïs, au plan d'urgence des Nations Unies pour l'Afghanistan.
Urgence humanitaire absolue. Après des décennies de guerre, la crise du Covid et une sécheresse aiguë, 97%, autant dire toute la population afghane risque de basculer sous le seuil de pauvreté l'an prochain. Les États-Unis, eux, contribueront à hauteur de 64 millions d'euros. Le retrait américain d'Afghanistan défend hier soir par le secrétaire d'État devant le Congrès, très remonté, des élus républicains particulièrement critiques, Sébastien Paour.
Mr. Secretary, the American people don't like to lose.
Les Américains n'aiment pas perdre, surtout contre des terroristes. Les mots les plus durs sont ceux de l'élu républicain du Texas, Michael McCaul. Il parle de retrait chaotique et de trahison. Ça ne devait pas arriver. Mais le président a refusé d'écouter ses propres généraux et les services de renseignement, qu'il avait alerté précisément de ce qui se passerait au moment du retrait. C'est un désastre cuisant. Je ne pensais pas assister de mon vivant à une reddition inconditionnelle face aux talibans. Anthony Blinken répond que même les plus pessimistes n'avaient pas prévu une chute de Kaboul aussi rapide, et il accuse l'équipe Trump d'avoir laissé une date butoir, mais pas de plan de retrait. Quand le président Biden a pris ses fonctions en janvier, il a hérité d'un accord que son prédécesseur avait conclu avec les talibans. En janvier 2021, les talibans n'avaient jamais été aussi forts militairement depuis le 11 septembre. Sans l'accord passé par Trump, dit Blinken, Biden n'aurait sans doute pas fait de la même manière et au même moment. Washington, Sébastien Paour, France Inter.
Joe Biden, par ailleurs, de retour dans le concert des nations. Le président américain annonce sa présence devant l'Assemblée générale de l'ONU le 21 septembre. Retour en présentiel pour tous à New York et sous conditions. Allez, on termine avec ce chiffre symbolique pour Ariane Espace. Elle va lancer ce soir son 1000e satellite depuis que l'aventure a débuté il y a 41 ans. Avec un changement de braquet considérable, il n'y a plus un ou deux satellites sur chaque fusée, mais des dizaines. Les constellations ont changé la donne et les Européens sont encore dans la course malgré la concurrence américaine. Le président d'Ariane Espace s'est confié à Sophie Bécherel.
Après le tir de ce soir, Ariane Espace aura mis en orbite 322 satellites de la constellation OneWeb sur les plus de 1000 qui lui ont été confiés par l'opérateur britannique. C'est actuellement la fusée Soyouz depuis Kourou ou Baïkonour qui réalise les lancements par grappe, 34 satellites à la fois. Demain, Ariane 6 prendra le relais, explique Stéphane Israël. Le futur lanceur doit permettre à l'Europe de rester compétitive, détaille le président exécutif d'Ariane Espace.
Ariane 6 est une fusée très puissante et donc par exemple pour un projet comme OneWeb, on pourrait mettre jusqu'à 78 satellites OneWeb dans la même fusée, alors qu'avec un Soyouz, on en met un peu plus d'une trentaine. Et les caractéristiques du produit Ariane 6 sont parfaitement adaptées à ces nouveaux projets, car Ariane 6 a un nouveau moteur qui s'appelle le Vinci. Ce moteur, on peut le réallumer pour faire des missions plus complexes, et c'est tout à fait ce que demande ce genre de projet.
Pour faire face à la concurrence, notamment celle de l'américain SpaceX, les industriels européens demandaient depuis des années un nombre garanti de missions institutionnelles chaque année. Ils viennent de l'obtenir à la fois pour Ariane et Vega C, la petite fusée italienne. Stéphane Israël.
Cet été, les Européens ont décidé de s'engager à acheter au moins 4 Ariane 6 et 2 Vega C par an et à maintenir nos capacités industrielles au niveau de au moins 7 Ariane et 3 Vega. Donc il y a vraiment une volonté stratégique. Nous ne pouvons que saluer cette décision.
Et voilà, lancement de ce 1000e satellite, si tout va bien Nicolas, ce soir, 20h07, heure de Paris.
Merci Anaïs Feuga. Le Zoom dans 3 minutes, aujourd'hui en Allemagne, avec une nouvelle façon de faire campagne pour l'après-Merkel.